Po. Soyez les bienvenus, il est tout juste 15h. Et toute l'info, c'est avec Philippine Thibaudot.
La décision fait polémique. Un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a obtenu une permission de sortie. Il pourra se rendre demain chez un possible futur employeur. Un détenu de 52 ans, condamné pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Et la permission divise parce qu'il est suffisamment dangereux pour être incarcéré dans le quartier ultra sécurisé de Vendin et parce qu'il avait déjà tenté de s'évader en prison. De prison, le syndicat de surveillants UFAP, la direction de la prison, le procureur et le procureur général s'insurgent. Mais Marie Violo, l'avocat du détenu, y voit elle au contraire un système de réinsertion qui fonctionne.
La décision qui a été octroyée par le juge d'application des peines est confirmée par la cour d'appel de Douai. C'est une décision qui est parfaitement logique, qui obéit aux critères de la loi et qui doit satisfaire tout le monde, parce que ça veut dire que notre système de réinsertion, malgré ce qu'on peut entendre et malgré ce qu'on raconte, fonctionne encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, un homme qui peut prétendre à un aménagement de peine, qui est éligible à un aménagement de peine, il est accompagné. Et si on a un magistrat, un deuxième magistrat, plusieurs juges qui sont parfaitement indépendants, qui ont décidé de lui octroyer une permission de sortir, ça veut dire qu'ils ont décidé de l'accompagner dans son projet de sortie. Et que, en fait, en France, n'en déplaise aux commentateurs, n'en déplaise aux syndicats de surveillants pénitentiaires, en France, les gens sortent de prison. Y compris quand ils sont condamnés pour des trafics de stupéfiants et des associations de malfaiteurs.
Et le détenu en question qui a une permission de sortie demain devra réintégrer sa cellule le soir même. Dans le Gard, un homme est mis en examen pour le meurtre de sa compagne. La femme de 50 ans a été retrouvée morte jeudi, le visage tuméfié à son domicile à Beaucaire. Lui a assuré qu'elle avait fait une chute et n'avoir pas de souvenirs précis. Chaque jour en France, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide. Un chiffre en augmentation sur un an selon les données de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Les Américains espèrent régler les derniers détails de l'accord de paix avec les Ukrainiens. Les délégations des deux pays, avec celles de pays européens, sont en Suisse aujourd'hui pour discuter du projet proposé par les États-Unis. Donald Trump qui a donné 4 jours à Volodymyr Zelensky pour accepter oui ou non l'accord. Le chancelier allemand s'est dit sceptique quant à sa réalisation dans les temps. Plus de 300 élèves enlevés avant-hier au Nigeria, eh bien, l'association chrétienne annonce que 50 d'entre eux ont réussi à s'enfuir. Ils ont retrouvé leurs parents. Près de 250 restent donc aux mains de leurs ravisseurs qui ont réalisé ce kidnapping dans une école catholique de l'ouest du pays. Le pape Léon XIV a appelé aujourd'hui à leur libération immédiate. Et puis du foot ce soir avec la suite de la Ligue 1, notamment Auxerre et Lyon, dont le coup d'envoi vient d'être donné, ou encore Lille qui reçoit le Paris FC à 20h45 pour la clôture de cette 13e journée.
Philippine Thibaudot pour l'info à 15h. Bienvenue sur France Info, à suivre dans la prochaine demi-heure. Les insoumis qui se mettent en ordre de marche pour les municipales et parfois contre des maires socialistes ou écologistes, on le verra. On fait le bilan de la COP30 et de cet accord en demi-teinte arraché hier à Belém au Brésil. Mais d'abord, le service militaire va-t-il faire son retour en France ?
France Info, 14h-17h. Benjamin Recouvreur.
Le gouvernement semble en tout cas y réfléchir face à l'hypothèse d'un conflit armé en Europe. Un travail est engagé pour un nouveau service militaire volontaire. Des réflexions que confirme sur France Info ce matin la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo.
Je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne pour son discours habituel, traditionnel, il a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Et je veux peut-être juste un peu donner des éléments d'explication et de contexte. Vous le savez, dans plusieurs pays européens, en ce moment, des réflexions là-dessus. La semaine dernière, j'ai reçu mon homologue suédois, qui est un modèle qui est en train d'être développé dans pas mal de pays européens. Bon, tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
C'est cette semaine que ça va être annoncé ?
Je ne sais pas.
Alice Ruffo, 50 000...
On y travaille, oui.
50 000 personnes, 50 000 volontaires d'ici 2035, c'est un horizon qui est réaliste.
Alors, vous savez, on a déjà dans la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, parlé de l'augmentation de la réserve opérationnelle. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate, un, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Voilà, elle existe, on peut avoir des débats, des polémiques, etc., mais il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'engagement militaire qui implique quand même des risques et des sacrifices très importants. Il y a d'autres formes d'engagement aussi qui peuvent être utiles et d'autres formes de compétences qui peuvent être utiles. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres. Et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense commune.
Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, j'ai un enfant de 18 ans » ou même des jeunes qui nous écoutent, ça consiste en quoi ? C'est 10 mois où on va servir concrètement dans l'armée dans le but de l'intégrer, ou 10 mois dans le but de faire partie de la réserve, ou 10 mois juste une expérience comme ça pour voir à quoi ça ressemble ?
Vous venez très bien de résumer les choses, il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900 000 euros par mois.
Ah bah écoutez, je vous dis juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, invitée du 8-30 France Info ce matin avec Mathilde Sirot et Adrien Beck. Entretien à retrouver en intégralité et en vidéo sur franceinfo.fr. Un service militaire que rejettent les insoumis à gauche dans la classe politique, mais ce n'est pas vraiment le sujet qui les occupe aujourd'hui. LFI qui donne ce dimanche le coup d'envoi de sa campagne des élections municipales. Cela se passe à Aubervilliers, au nord de Paris. Et pour la première fois, Elia Bergel, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon se lance à fond dans cette élection.
Oui, les insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur cinq qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer » la volaille socialiste.
Et derrière les élections municipales, Élie, la France insoumise se projette aussi déjà sur les sénatoriales.
Oui, car qui dit conseillers municipaux dit grands électeurs pour les élections sénatoriales. Le prochain scrutin, c'est en septembre 2026, quelques mois après les municipales. Et oui, LFI y pense, assume Paul Vanier.
C'est important parce que beaucoup de choses se jouent aujourd'hui au Sénat. Dans ce moment de crise de la Ve République, cette Assemblée concentre des pouvoirs.
En ce moment, avec une Assemblée nationale sans majorité, incapable de s'entendre sur un budget, le Sénat a un rôle plus important que d'habitude dans l'élaboration du projet de loi de finances. Mais au-delà de ça, pour les insoumis, l'enjeu central, c'est d'occuper tous les terrains, Assemblée, mairie, Sénat, pour préparer au mieux la candidature quasi certaine de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027.
Elia Bergel, service politique de France Info. Ce n'est pas un échec total, mais un accord à minima trouvé à la COP30 de Belém au Brésil hier. Les 200 pays réunis ont adopté un modeste consensus sur l'action climatique, mais sans plan de sortie de l'énergie fossile. Un résultat plus que décevant pour François Gémen, co-auteur du rapport du GIEC, chercheur spécialiste de la gouvernance du climat et de l'immigration, et il était l'invité de France Info tout à l'heure.
C'est un résultat qui est vraiment, vraiment calamiteux et qui est en dessous de tout. Il n'y a rien sur les énergies fossiles à part une référence oblique au consensus des Émirats de la COP28 il y a deux ans. Il n'y a pas grand-chose non plus sur la déforestation. Et donc, en réalité, on a vraiment un texte qui est une coquille vide, qui cherche simplement à sauver les meubles et à donner l'illusion que le multilatéralisme est encore vivant. Et on voit bien pourquoi les délégués, notamment les délégués européens, ont accepté ce texte, parce qu'ils ne pouvaient pas, dans le contexte actuel, prendre le risque d'un échec diplomatique cuisant qui aurait en quelque sorte donné raison à Donald Trump. Mais le résultat, le prix est très très lourd à payer. C'est un recul majeur par rapport aux avancées des années précédentes.
Alors justement, vous parlez des Européens, je vous propose d'écouter Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui dresse un bilan mitigé.
Le processus était peu transparent. Tout s'est fait dans des chambres fermées, avec peu de compréhension de ce qui se disait dans les différents groupes. Ce n'est pas une COP de la vérité, ce n'est pas une COP de la transparence. Le résultat n'est pas au niveau de nos attentes. Si ça avait été un vraiment mauvais accord, nous ne l'aurions pas signé. C'est un accord sans ambition, mais ce n'est pas un mauvais accord dans le sens où il y a des choses inadmissibles, si vous voulez, décrites dedans. Il ne casse rien, si vous voulez, des dynamiques précédentes. Pour nous, c'est effectivement tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, dit la ministre Françoise Gemène. Est-ce qu'elle essaie un peu de sauver la face ?
Alors, quand vous entendez ce type de langage de la part de Monique Barbu ou de Jean-Luc Cruc qu'on a entendu auparavant, qui sont pourtant rompus à tenir des propos diplomatiques et policés, vous savez que le résultat est archi nul. En réalité, si vous lisez entre les lignes, et ce résultat est nul parce qu'il envoie un très mauvais signal aux acteurs économiques. Il faut bien se rendre compte que le résultat des COP, ce n'est pas tellement des engagements qui vont s'imposer aux États, c'est surtout des signaux qui sont envoyés au monde extérieur et notamment au monde économique. Et donc, quand on dit il y a 2 ans qu'on va sortir des énergies fossiles, on envoie le signal aux investisseurs qu'il faut déplacer leurs investissements et investir dans les énergies bas carbone. Et là, si vous n'êtes même plus capable de reprendre ce terme d'énergie fossile dans le texte, eh bien, vous envoyez évidemment le signal qu'on peut encore continuer à investir pendant longtemps dans les énergies fossiles et que la fin des fossiles n'est pas pour demain.
Oui, que ça risque d'inciter les entreprises à poursuivre, à augmenter leurs investissements dans les énergies fossiles.
Mais bien entendu, ou même celles qui se disaient qu'ils allaient s'engager dans un processus de décarbonation parce que la législation allait arriver, parce que le monde était résolu à lutter contre le changement climatique, ben celles-là risquent d'attendre encore un peu en se disant qu'il n'y a pas urgence.
Mais pourquoi les Européens n'ont pas tapé plus fort du poing sur la table ?
Alors, ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours des COP précédentes. Je me souviens de la COP 6 à 2000 à La Haye, où les Européens avaient carrément claqué la porte et les négociations ont été suspendues. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Pour 2 raisons. 1, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme les méchants. Le problème, c'est que les pays émergents, s'ils veulent s'engager sur les énergies fossiles, demandent de l'argent en compensation des dégâts du changement climatique. Et les pays européens, aujourd'hui, n'ont pas cet argent à mettre sur la table. Donc, il faut mobiliser des capitaux privés. Mais pour le moment, les gouvernements n'ont pas cet argent. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, ils ne voulaient pas donner raison à Donald Trump. Si la COP avait été un échec, eh ben Donald Trump aurait dit « Vous voyez, ces COP ne servent à rien. Je l'avais dit, ça ne sert à rien d'y participer. » Et donc, même si les États-Unis n'étaient pas là, leur ombre a clairement plané sur la conférence.
Vous parliez des signaux. Il y a une reconnaissance implicite dans cette COP que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est hors d'atteinte. Ça signifie quoi pour la crédibilité de l'accord de Paris ?
Alors, au départ, on savait que cet objectif d'1,5 degré était en réalité inatteignable. C'était surtout un gage de bonne volonté qui avait été donné il y a 10 ans aux représentants des petits États insulaires, pour qui c'était évidemment quelque chose de très très important. Mais on savait que cet objectif était inatteignable. Aujourd'hui, cet objectif, c'est un marqueur d'ambition politique, de la même manière que vous diriez 0 mort sur les routes en matière de sécurité routière. C'est simplement un marqueur d'ambition. On sait que l'objectif est inatteignable d'un point de vue scientifique, mais ça reste un marqueur d'ambition politique. On voit bien un peu le décalage ici entre la bulle des négociations et la réalité.
Malgré tout, François Gemène, ce texte mentionne parmi les points positifs, un triplement de l'aide à l'adaptation pour les pays justement qui doivent faire face au réchauffement climatique et qui n'ont pas les moyens de financer les dégâts. Ça, c'est un vrai progrès ou c'est un lot de consolation ?
C'est un peu un lot de consolation. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est un des rares points positifs du texte, mais le problème, c'est que comme on ne met pas d'argent sur la table, on en est réduit à faire des promesses, des intentions de plus en plus ambitieuses. Je préférerais sincèrement qu'on dégage un peu d'argent maintenant plutôt que de promettre un triplement d'ici 2035 sans préciser clairement comment et où on va trouver cet argent.
Enfin, pour terminer, le Brésil avait annoncé une COP qui serait un pont entre les pays du Nord, les pays du Sud moins développés. Est-ce que ça a été le cas, selon vous ?
J'ai envie de dire pas vraiment. On sent bien que
il
n'y
a
le
rien
texte
de bon en fait, François Jemène, avec vous.
Franchement, c'est compliqué de trouver des choses à sauver dans cet accord. Alors, on sent bien que le texte effectivement satisfait les pays émergents. Ça me rappelle un peu le texte de la COP 15 à Copenhague, qui là aussi avait été un texte dicté essentiellement par les pays émergents, et donc qui évidemment insatisfait les Européens. Et qui est un texte qui impose très, très peu de contraintes et qui impose des signaux très très faibles.
François Jemène, co-auteur du rapport du GIEC, chercheur spécialiste de la gouvernance du climat et de l'immigration, il était l'invité de France Info avec Benjamin Fontaine. La région du Darfour au Soudan, toujours en proie à une grave crise humanitaire face à la guerre civile et les offensives des paramilitaires. Une semaine après le passage du numéro 2 de l'ONU sur place, l'aide humanitaire reste très précaire. D'après Handicap International, seul un quart des besoins financiers sont aujourd'hui couverts. Dans le camp de Tavila, la gestion humanitaire de cette guerre est en totale faillite. Étienne Monin, elle repose sur quelques ONG, parmi lesquelles plusieurs françaises.
C'est un hasard, mais Jérôme Bertrand est arrivé dans le camp de Tawila quelques jours après la prise de la ville d'El Fasher par les paramilitaires. Il travaille pour Handicap International. Il a découvert le camp de réfugiés au plus fort de la crise.
Vous avez une population comme celle de la ville de Lyon qui vit sous des bâches, dans des abris en paille, et qui ont plus rien pour survivre.
Avec la chute de la ville d'El Fasher, Tawila a connu une surcrise. Des milliers de réfugiés supplémentaires ont convergé vers cette zone, menacés sur la route par les paramilitaires.
Il y a de plus en plus de monde qui arrive de nuit, et ceux-là ont des blessures aux coudes et aux genoux, parce qu'en fait, ils ont rampé pendant des centaines de mètres, voire peut-être plusieurs kilomètres, pour échapper ces groupes en fait, qui les menacent, ils sont blessés. Il y a des blessures par balles, il y a des blessures de torture et il y a effectivement ces marques aux coudes et aux genoux qui sont très marquantes.
Les ONG n'ont pas de stock sur place. Elles travaillent, on pourrait dire, à flux tendu. Les camions peuvent mettre 2 mois avant d'arriver, freinés par les contraintes administratives et sécuritaires.
À cause du contexte sécuritaire, les routes principales d'accès au camp de Tawila ne sont plus utilisables. Tous les camions qui apportent de l'aide sont obligés de traverser une zone qui s'appelle le Djebel Mara, qui est une zone montagneuse, volcanique, et doivent passer par des pistes, mais des pistes qui sont improvisées.
Les ONG sont aujourd'hui en échec. Elles sont une quinzaine à tenir l'aide humanitaire à bout de bras dans le camp, mais elles n'arrivent pas à répondre aux besoins, regrette Jérôme Bertrand.
On se retrouve en fait à devoir faire des choix en fait en termes de qui est-ce qu'on aide et qui est-ce qu'on n'aide pas. Quand vous avez des nouveaux arrivants, vous devez décider à qui vous allez donner de quoi survivre, parce qu'il ne s'agit que de ça, donner de l'eau pour boire, donner à manger pour survivre. Donc c'est ces choix-là, ces dilemmes inhumains auxquels on fait face.
Et cette situation au Darfour illustre l'effondrement de l'aide humanitaire institutionnelle avec le retrait des financements américains depuis Donald Trump et l'absence de l'ONU qui ne parvient pas à déployer sa logistique pour répondre aux besoins.
Un témoignage recueilli par Étienne Monin, rédaction internationale de Radio France. Partons désormais en Haïti, où ce sont les gangs qui font régner la terreur, notamment à Port-au-Prince, qu'ils contrôlent en grande partie la capitale, transformée en zone de guerre où les forces de sécurité haïtiennes utilisent désormais des drones, comme en Ukraine, pour lutter contre les groupes armés, dirigés par Jimmy Thierizier, alias Barbecue, Omar Waman, l'ennemi public numéro 1.
Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des hommes armés dans un quartier de Port-au-Prince frappés par des drones kamikazes légers et faciles à piloter à distance. La première opération a visé Barbecue. À la tête d'une coalition de gangs, il a d'abord été décrit comme grièvement blessé avant d'apparaître sur une vidéo indemne. Hervé Noël est journaliste à Radio Kiskeya à Port-au-Prince.
Il était sur TikTok, il a dit « J'ai été attaqué par des drones, mais sans succès jusqu'à présent ».
L'État haïtien multiplie les opérations, mais aucun chef de gang n'a été éliminé à ce stade. Des frappes de drones qui ont causé la mort de nombreux civils, comme le confirme Jonasson Odigène, journaliste au Nouvelliste, le plus ancien quotidien en Haïti, de passage à Paris.
Le 20 septembre 2025, a été tué pas moins de 15 personnes, dont 8 enfants. Donc voilà, c'est pas seulement des bandits, mais aussi il y a des civils qui sont comptés parmi ces personnes tuées.
Les ONG, d'abord favorables à l'utilisation de ces drones, dénoncent désormais une absence de coordination entre les forces de sécurité et des pertes civiles importantes. En attendant, Barbecue et ses alliés continuent de défier les autorités haïtiennes.
Les précisions d'Omar Waman.
France Info, 14h-17h.
Reste avec nous, on vous raconte le phénomène Demon Slayer dans un instant, juste après l'info en une minute à 15h19, Philippine Thibaudot. À la une, la guerre en Ukraine se joue en ce moment en Suisse.
Plusieurs délégations se rencontrent à Genève pour négocier le plan de paix proposé par les États-Unis. Il pourrait prendre en compte les perspectives ukrainiennes, estime Volodymyr Zelensky après des réunions avec les Américains et les Européens. Un accord doit être trouvé d'ici jeudi, selon l'ultimatum lancé par Donald Trump qui, de son côté, a échangé avec les dirigeants finlandais et italiens. Le Premier ministre israélien a ordonné une attaque contre le chef d'état-major du Hezbollah, indique son bureau. Dans le même temps, l'armée israélienne dit avoir visé un haut cadre du mouvement pro-iranien dans une frappe à Beyrouth, au Liban. Le ministère libanais de la Santé fait état d'un mort et de 21 blessés après l'attaque dans la capitale. 5 jours d'école par semaine, 2 zones de vacances au lieu de 3 et début des cours à 9h plutôt qu'à 8. Voilà les quelques propositions. La Convention citoyenne sur les rythmes scolaires en France, les 130 citoyens adoptent aujourd'hui 20 recommandations. Elles seront soumises et proposées au président de la République, aux parlementaires et aux élus locaux.
France Info.
Vous n'y avez sans doute pas échappé, on vous parle maintenant d'un phénomène venu du Japon, l'histoire d'un jeune chasseur de démons, la saga Demon Slayer, une collection de mangas à succès devenue une série animée, puis une série de films sortis en salle. Le dernier, La Forteresse Infinie, est devenu, Matteo Maestrachi, le film japonais le plus rentable de l'histoire.
La soirée est si belle, tu ne trouves pas ?
Plus de 2 mois après sa sortie dans les cinémas français, Demon Slayer, La Forteresse Infinie est toujours à l'affiche, comme dans ce grand complexe qui borde la Seine à Paris, où l'on retrouve Laurine qui vient le voir pour la deuxième fois.
J'ai vraiment adoré le premier visionnage, j'ai adoré la musique, les émotions, j'ai vraiment retrouvé toutes les sensations qu'on avait dans les premières saisons, voilà, c'est pour ça que je vais le revoir une deuxième fois.
Et comme Laurine, ce sont en tout plus d'1 800 000 tickets qui ont été vendus pour le film, le 10e long-métrage au box-office français de 2025. Dans une année pourtant marquée par une fréquentation en forte baisse, Demon Slayer cartonne en fait depuis sa première parution en 2016. 23 tomes de manga en librairie, une série animée de 3 saisons. La 4e arrive bientôt, visible notamment sur Netflix, et donc des adaptations au cinéma. Des animations qui ont réussi à sublimer l'œuvre papier, selon Didier Passa Monique, commissaire de l'exposition manga présentée en ce moment au musée Guimet à Paris.
Le manga lui-même, il est très très bien fait, il est très passionnant, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel avec Demon Slayer, c'est le dessin animé. Le dessin animé qui a fait ce score incroyable que vous racontez, c'est un des plus beaux dessins animés de l'histoire du dessin animé japonais. La qualité de l'animation, c'est au-dessus de tout.
Comme Naruto ou One Piece, qui comptent aussi évidemment leur version animée et sont d'autres grandes réussites commerciales, Demon Slayer est une référence de shonen manga qu'on peut traduire par bande dessinée pour jeunes garçons, même si Laurine prouve que ce succès n'est finalement pas si genré.
C'est vraiment une histoire typique d'un tout ce qu'on aime chez les shonen. Moi, j'avais d'abord lu le manga notamment, j'ai ensuite pris l'animé et je suis d'accord pour dire que le film embellit vraiment les pages du manga. C'est un plaisir à regarder, quoi.
Demon Slayer, La Forteresse Infinie, est en tout cas devenu, avec plus de 100 milliards de yens de recettes dans le monde, 556 millions d'euros, le film japonais le plus rentable de l'histoire. Le prochain chapitre au cinéma est prévu pour 2027.
Ce combat interminable pourrait bien toucher à sa fin durant cette nuit.
Le phénomène Demon Slayer avec Matteo Maestrachi. Et on continue à parler manga dans France Info Junior avec une visite guidée de l'exposition Manga Tout un Art. C'est à voir au musée Guimet à Paris et c'est en compagnie de Cécile Ribeau-Cailleul et de son invité.
Au milieu des porcelaines, sculptures et des estampes japonaises, place au manga qui orne les murs du musée Guimet. Manga Tout un Art, c'est le titre de cette exposition exceptionnelle qui vient d'ouvrir au musée Guimet et jusqu'au 9 mars prochain. Bonjour Estelle Bauer.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice des expositions japonaises du musée Guimet. Un grand merci d'ouvrir les portes de ce magnifique musée à nos journalistes en herbe du jour. Ils s'appellent
Gaston, Alexandre, Mathieu et Adam.
Je crois qu'on peut partir pour une visite guidée qui va être exceptionnelle avec vous. Cette Bauer. On vous suit ?
Ouais. Donc là, on arrive dans la première salle dans laquelle on trouve à la fois des planches de manga, donc des vrais dessins faits par des mangaka, et aussi du théâtre de papier, le Kamishibai, qui est un peu l'origine, une des origines du manga, c'est-à-dire C'était comme du théâtre ambulant, mais avec un conteur qui raconte des histoires avec des planches qu'il montre les unes après les autres.
Qui a créé le premier manga et en quelle année ?
Oui, alors ça c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre et de dire exactement en quelle année. En tout cas, dans l'exposition, le manga le plus ancien qui est présenté, disons un vrai manga avec des cases et des bulles, c'est Norakuro, donc Norakuro, le petit chien noir, un chien soldat, et qui a été inspiré par Félix le Chat. Vous pouvez voir ici. En fait, c'est avant la guerre, ça date des années 1930, et là, c'est plutôt proche de la bande dessinée, mais on lit déjà de la droite vers la gauche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment déjà de la bande dessinée en noir et blanc. Mais ça ressemble un petit peu à du théâtre, en fait. On a l'impression que les personnages sont debout sur la ligne de la case, comme s'ils marchaient sur une scène de théâtre.
Pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc ?
Ah, alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison économique, comme ils doivent produire de manière très rapide. Ben voilà, on dessine juste, et parce que mettre la couleur, appliquer la couleur, ce serait plus long. C'est aussi moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et puis, je pense qu'il y a aussi une tradition au Japon. Le Japon, c'est un pays depuis des siècles où on écrit et on dessine avec un pinceau et de l'encre. Donc, il y a un vrai goût pour le noir et blanc.
Que signifie le mot manga ?
Ça, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, le mot manga, au départ, ça signifie dessin varié. Ga, ça veut dire dessin. Et man signifie varié, spontané. L'idée aussi de quelque chose qui est très vaste, un peu comme un océan. Donc on peut traduire aussi par océan d'images. Mais le mot ensuite a évolué. Et donc, à la fin du 19e siècle, les Japonais l'ont utilisé pour traduire le mot caricature. Et c'est seulement dans les années 1920, à peu près, qu'il a été utilisé pour traduire le mot bande dessinée. Ça, c'est un Dragon Ball. Voilà, vous voyez, c'est un dragon. C'est une statuette qui a été offerte par le shogun à Napoléon III, il y a à peu près 150 ans. Si vous regardez bien, on voit qu'il y a un dragon qui semble émerger des flots et qui porte une boule de cristal. Donc, vous voyez, l'idée d'associer un dragon à une boule de cristal, en fait, ça existait déjà bien avant la création du manga.
Sur cette boule de cristal, j'ai remarqué qu'elle est transparente, alors que dans Dragon Ball, elle est plutôt orange et il n'y a pas les étoiles dessus.
Ah, bah c'est une belle remarque. Ce n'est pas exactement la même chose, effectivement. Dans Dragon Ball, l'auteur a dû s'inspirer de la tradition, mais il l'a réinterprétée, il l'a transformée à sa manière.
Je voudrais savoir dans quel manga on peut retrouver la grande vague de Hokusai.
Alors, la grande vague de Hokusai, on la retrouve encore dans One Piece.
Et on la retrouve dans cette exposition aussi ?
Alors oui, dans cette exposition, on la retrouve. Donc on va voir la vraie grande vague de Hokusai, mais on va aussi voir comment est-ce qu'elle a été déclinée dans la bande dessinée contemporaine française.
Et je voulais vous demander si dans cette exposition, il n'y avait que des mangas japonais ou aussi des français ?
Que de mangas japonais. C'est vraiment une exposition sur le manga japonais, mais l'affiche a été faite par un mangaka français, Renaud Lemaire.
Il y a combien d'œuvres qui sont exposées ici ?
En gros, il y a à peu près 600 œuvres qui sont exposées, donc c'est considérable. Et il y a environ 130 pages de planches originales de manga.
Merci beaucoup à nos journalistes en herbe de France Info Junior et à vous surtout, Estelle Bauer, conservatrice des collections japonaise ici au musée Guimet.
Manga tout en art.
C'est jusqu'au 9 mars.
Il ne faut pas la rater. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimashita.
Sayonara.
Estelle Bauer avec Cécile Ribaud-Cayol et ses journalistes en herbe dans France Info Junior. C'est à réécouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France. La météo arrive.
France Info, reportage, partout avec vous.
Voici Judith, 15 ans, temps d'écran quotidien sur TikTok.
3 heures.
Elle ne voit pas du tout ses parents télécharger TikTok sur leur téléphone pour ensuite contrôler à distance son compte.
Ça risque pas d'arriver, je pense, ils la surlèveront jamais.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Un grand ciel bleu, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain sera.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, il vous faut une radio compatible DAB+. Et c'est tout. Plus d'infos sur ensemble.le.dab+.fr.
DAB+.
Trois lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Le temps avec Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays. Et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du Nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire jusqu'au sud-ouest avec des pluies localement soutenues qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec mais sous un ciel couvert près des frontières de l'Est avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse et sur le nord-ouest du pays. Nous aurons un ciel très changeant avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Patricia Charbonnier pour les prévisions météo. Merci d'être à l'écoute de France Info ce dimanche après-midi. Bienvenue, il est 15h30. Un nouveau point complet sur l'info, c'est avec Sarah Ders.
Le destin de l'Ukraine, de l'Europe se joue-t-il aujourd'hui à Genève? Des responsables ukrainiens, américains, européens se retrouvent aujourd'hui en Suisse pour discuter du plan de paix américain considéré comme très avantageux pour la Russie. Donald Trump accuse à l'instant l'Ukraine de ne faire preuve, je cite, d'aucune gratitude à l'égard des États-Unis. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan dit qu'il va s'entretenir demain sur l'Ukraine avec Vladimir Poutine. Au Nigeria, 50 élèves ont réussi à s'échapper à leur ravisseur. Parmi les plus de 300 enlevés il y a deux jours dans une école catholique dans le centre du pays, le pape Léon XIV appelle à la libération immédiate de tous les élèves et enseignants enlevés dans cette école catholique. En France, à l'école, des cours plus tard et moins longs. Une convention citoyenne propose une nouvelle organisation des journées à l'école. Donc, après 5 mois de travail collectif, les 130 citoyens tirés au sort dévoilent aujourd'hui leur rapport et plaident pour 5 jours d'école, des cours de 45 minutes ou encore 2 zones de vacances. La décision suscite l'incompréhension de plusieurs syndicats d'agents pénitentiaires. La justice accorde un permis de sortir à un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, l'un des 100 premiers narcotrafiquants selon les autorités. La représentante des directeurs pénitentiaires rappelle sur France Info que ça s'appelle l'individualisation de la peine et que c'est un principe constitutionnel. Dans le nord-est de la France, un réseau de trafic d'héroïne démantelé, 26 kilos de drogue saisie, 6 personnes interpellées et présentées au parquet de Charleville-Mézières. L'héroïne était distribuée via le réseau social Snapchat et livrée dans les Ardennes et l'agglomération nantaise. Un premier foyer de grippe aviaire en Haute-Vienne, dans un élevage de volailles d'Arnac-la-Poste, avec comme conséquence l'abattage de tous ces volatiles. En tout, une 20aine de foyers de grippe aviaire recensés en France ces dernières semaines. Plus de neige sur les voitures, plus aucun département en vigilance orange neige verglas en France en ce dimanche 2 novembre. Le Puy-de-Dôme et le Cantal ne sont plus concernés.
Sarah Ders pour l'info à 15h30. Merci beaucoup. À suivre dans un quart d'heure sur France Info. On accroche sa ceinture et on accélère avec Dorian Pain, la pilote automobile sacrée la nuit dernière en F1 Academy à 21 ans seulement à Las Vegas. On dresse son portrait avec notre invité. Dans 5 minutes, on revient aussi sur cette étude qui pointe la dangerosité des implants mammaires en silicone qui peuvent provoquer des maladies auto-immune. Mais d'abord, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant vient de rendre ses conclusions.
France Info, 14h-17h, Benjamin Recouvreur.
Après 5 mois de travail collectif, les 130 citoyens tirés au sort pour travailler sur l'organisation des journées des enfants a donc rendu ses recommandations. Parmi elles, revenir à 5 jours d'école par semaine dès le primaire, faire démarrer les cours plus tard au collège et au lycée à 9h, ou encore réserver les matinées aux apprentissages théoriques. Une bonne idée selon Grégoire Ancel, il est vice-président national de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves.
Si on se place vraiment du point de vue de l'enfant et de son intérêt pour l'accès aux apprentissages, la réduction des inégalités et la capacité à être attentif, concentré et participatif, c'est effectivement un horaire qui correspond le mieux, là encore, aux intérêts de l'enfant et donc à condition de s'organiser en termes de transport. Ça va demander un certain mouvement de la société, mais c'est tout à fait souhaitable et envisageable, effectivement.
Donc vous faites le même constat que cette convention qui dit que les rythmes scolaires sont construits en fonction des contraintes des parents, mais pas en faveur des enfants, et il faut que ça change.
Tout à fait. Si on veut vraiment que l'école soit facteur d'égalité, permette aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, il faut qu'on ait collectivement le souci de réorganiser les choses. Ça va être pour nous un des enjeux forts des élections municipales, mais aussi des questions à centrer dans la campagne des présidentielles à venir, parce que aujourd'hui le compte n'y est pas et on voit bien qu'on a une école qui est totalement décalée par rapport aux besoins des enfants, et donc c'est totalement préjudiciable à leur développement et à leurs apprentissages.
Une fin de journée vers 15h30, 16h30, ça risque quand même de poser quelques soucis à certains parents?
Alors, lorsqu'on a échangé, parce qu'on a eu l'occasion, et je tiens d'ailleurs à souligner la qualité de leurs travaux et l'exigence qu'ils ont eue dans l'écoute, dans l'accueil des experts pour vraiment se cultiver sur ces enjeux-là, si l'école s'arrête à 15h30, et il est tout à fait possible derrière que les collectivités propose des activités. Il ne s'agit pas de libérer, et ça, ça a été un élément qui leur a été dit, attention à l'impact sur le travail des femmes. Parce qu'on sait très bien que si on arrête les cours à 15h30 sèchement, avec rien derrière, ce sont beaucoup de familles qui vont être perturbées, la vie des entreprises, et on sait très bien que c'est les femmes, notamment les plus précaires, qui vont devoir prendre du temps partiel pour faire face à ce genre de situation. Et donc, ce qui avait été évoqué, c'est que derrière, le milieu associatif, qui est très fragilisé en ce moment, je tiens à le rappeler, puisse prendre le relais avec des activités, comme on a pu le vivre il y a certaines années. Mais ça demande un travail local au plus près, des concertations, des échanges avec les enseignants, avec les collectivités locales, les communes, qu'on puisse travailler vraiment un projet centré autour de l'enfant. Et ce qui se joue là, derrière ces travaux, c'est la question de la place de l'enfant dans la société, oui, de la place qu'on lui accorde.
Mais Grégoire Ancel, vous parlez de la situation des femmes qui seront peut-être obligées de prendre le relais. On sait aussi que les communes, en 2017, elles ont vite reculé sur la semaine de 5 jours pour repasser à 4, ou
oui,
4 jours et demi.
Peut-être qu'on, tout à fait, peut-être parce qu'on n'avait pas pris le temps de la discussion, du travail, du consensus et de la préparation. On ne peut pas dire que les enfants sont trop longtemps sur les réseaux sociaux et que c'est préjudiciable, là encore, à leur développement, envisager une interdiction en dessous de 15 ans et ne pas leur proposer un temps libre éducatif de qualité. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est un recul dramatique de la prise en compte des loisirs et du temps libre des enfants dans les communes, qui ont reculé par rapport à ce qu'on appelait les projets éducatifs territoriaux, qui étaient pleins de sens et qui permettaient une belle dynamique. Et aujourd'hui, faute de moyens, faute de temps, faute de concertation, il y a eu du recul. Et ça, il ne faut pas oublier que l'enfant, c'est le cœur de la société et c'est les citoyens de demain. Alors, donc toutes les questions aujourd'hui posées sont pertinentes.
Alors venons-en aux vacances. Pas de réduction des vacances, mais un passage à deux zones. Vous dites oui, là aussi ?
Tout à fait, ça rejoint les travaux qui avaient été livrés par le Conseil supérieur de l'éducation et d'ailleurs qui avaient été présidés par l'FCPE, qui arrivaient aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des zones déséquilibrées et on a notamment, au moment du printemps, la dernière des zones qui oblige les enfants à avoir jusqu'à 11 semaines de cours consécutives. Et on sait parfaitement que dans ces conditions-là, là encore, les enfants ne peuvent pas apprendre. Le climat scolaire se détériore dans les établissements, il y a des tensions, les enseignants sont également épuisés. Et donc, avec cette alternance qui colle parfaitement au rythme de l'enfant, on retrouve cette capacité d'avoir une alternance 7-2, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances, qui leur convient là encore parfaitement. Et c'est tout à fait possible. Je rappellerai qu'aux vacances d'automne et de fin d'année, il n'y a qu'une zone et ça fonctionne très bien.
Avec le risque de voir le secteur du tourisme s'y opposer, il faut qu'il s'adapte ?
Alors, je rappellerai que pendant la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'éducation, ils étaient d'accord, puisqu'ils ont été auditionnés, et qu'il y a eu un large consensus sur ce sujet. Si aujourd'hui ils reculent, nous serions surpris, mais n'oublions pas nous aussi qu'ils ont pris conscience de l'impact du réchauffement climatique, notamment sur les stations de sports d'hiver.
Ouais.
Et puis, je rappellerai qu'aux vacances de février, 2/3 des familles ne partent pas au ski, donc on ne peut pas caler la question du calendrier scolaire sur 1/3 des familles qui partiraient et uniquement sur les questions liées à l'enneigement des stations. Ce n'est pas raisonnable.
Grégoire Ancel, le vice-président national de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, il était l'invité de France Info tout à l'heure avec Benjamin Fontaine. Les prothèses mammaires en silicone sont-elles vraiment sûres ? 400 000 femmes en ont en France, bien souvent après un cancer du sein. Une étude inédite pilotée par le CHU de Besançon montre que ces implants peuvent provoquer une inflammation qui peut déclencher une maladie auto-immune. Anne Lordanier, ses chercheurs ont analysé les prothèses d'une cinquantaine de femmes.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
Les explications d'Anne-Laure Danier, une étude avec de nombreux éléments intéressants mais qui ne doit pas inquiéter pour autant, selon Jean-Baptiste André-Oletti, les chirurgiens et secrétaire général adjoint du Syndicat national de chirurgie plastique. Reconstructrice et esthétique.
On savait déjà que le gel de silicone pouvait donner des réactions inflammatoires. On savait aussi que l'enveloppe des prothèses en silicone pouvait libérer des petites particules. Mmh. Ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça montre effectivement ça peut stimuler un certain nombre de gènes, une réponse immunitaire, mais ça n'a rien de surprenant et c'est des choses qui étaient déjà soupçonnées.
Ça pose quand même des questions.
Alors, les prothèses mammaires ont toujours posé des questions depuis très longtemps. Je crois qu'il faut juste rester extrêmement, d'abord, humble vis-à-vis de ce travail de recherche qui est une première et qui méritera d'avoir des travaux secondaires pour confirmer tout ça. Et puis, il faut savoir quel est l'impact réel de ces réactions inflammatoires qu'on connaissait déjà. Donc, je crois que pour le moment, il faut juste rassurer les patientes qui sont porteuses de prothèses. Il n'y a pas de danger majeur. En revanche, le conseil de surveillance, c'est vraiment du bon sens. Il faut effectivement que toutes les patientes porteuses de prothèses se fassent régulièrement surveiller, que si elles ont des signes de maladies inflammatoires ou de maladies auto-immunes, bien sûr, il faudra les explorer.
Mais est-ce que vous appelez à renforcer justement les protocoles de surveillance pour les 400 000 femmes qui portent aujourd'hui ces implants? L'étude recommande un suivi plus régulier.
Alors, le suivi régulier a déjà été préconisé et la Société française de chirurgie plastique ainsi que la SOFCEP ont déjà édité cette année des recommandations de surveillance des implants. Ça passe par des échographies régulières, ça passe par des contrôles cliniques réguliers. On conseille de revoir son chirurgien une fois par an et puis de faire effectuer des échographies de contrôle régulières. Au besoin, une IRM qui montre bien les clichés lorsqu'on a un doute sur l'échographie. C'est simplement ça, et je crois qu'il faut juste garder ça en mémoire, que toutes les patientes porteuses de prothèses soient rassurées, mais pour autant qu'elles fassent les examens nécessaires pour qu'on puisse dépister s'il y a une anomalie et s'il y a une rupture, et à ce moment-là, effectivement, envisager un remplacement.
L'étude du CHI de Besançon semble montrer aussi que l'enveloppe des prothèses n'est pas une barrière étanche, finalement, ce qui contredit le discours de certains industriels. Est-ce que vous comptez les interpeller sur le sujet ?
Non, parce que c'est des choses qu'on savait déjà. Je crois que on sait très bien que la barrière des implants mammaires en élastomère de silicone n'est pas totalement étanche, qu'il y a une certaine suffusion. Alors, on en avait largement parlé à l'époque du scandale PIP, puisque les éléments de contention, enfin les éléments barrières n'avaient pas été totalement mis en place sur ces implants. Je crois qu'on sait très bien qu'il y a une certaine suffusion. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas vraiment de manifestations cliniques qui soient inquiétantes, il faut juste le contrôler. Mais on ne va pas pour autant aller lancer des procédures là-dessus. Je crois qu'il faut, pour le moment, raison garder
et prendre un peu de recul par rapport à l'étude.
Mais bien sûr.
Vous avez évoqué, Jean-Baptiste André-Oletti, ce scandale des prothèses PIP qui a 15 ans maintenant. On se rappelle de ces prothèses remplies avec du gel artisanal, pas du tout conforme aux normes. C'est du passé. Aujourd'hui, la profession est rentrée dans le rang.
Bon, vous parlez de la profession des fabricants d'implants. Oui. Je crois que oui. À force de leur édicter des normes, ce qui était très surprenant dans l'histoire des PIP, c'est que les organismes de contrôle avaient été défaillants. Je crois qu'aujourd'hui, tous les fabricants de prothèses sont effectivement rigoureux sur la façon dont leurs implants sont conçus, sur la façon dont ils sont distribués. Après, nous, professionnels chirurgiens, on est bien obligés de faire confiance aux laboratoires qui nous fournissent les implants. On n'a pas de moyens de contrôle particulier, mais je crois qu'on peut aujourd'hui faire largement confiance aux fabricants d'implants qui sont surveillés et qui essaient de faire le mieux possible leur travail.
Les explications de Jean-Baptiste Andréoletti, chirurgien, secrétaire général adjoint du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il était l'invité de France Info avec Benjamin Fontaine. Restez avec nous sur France Info. Dans un instant, on revient sur le sacre de Dorian Pain la nuit dernière sur les circuits de la F1 Academy. C'est juste après un nouveau récap de l'actu de ce dimanche.
France Info. 14h-17h.
L'info en une minute à 15h44, c'est avec Sarah Ders et à la une, l'Ukraine, elle est pourparlée en ce moment à Genève.
Le rendez-vous est fixé entre délégations de l'Union européenne, américaine et ukrainienne en Suisse en terrain neutre. Donald Trump accuse l'Ukraine de ne faire preuve, je cite, d'aucune gratitude envers les États-Unis, alors qu'il tente d'imposer un accord pour mettre fin au conflit, jugé cet accord favorable à la Russie et donc contesté par Kiev et les Européens. La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée sur la banlieue sud de Beyrouth visait le chef d'état-major du Hezbollah. L'attaque a fait un mort et 21 blessés selon le premier bilan du ministère libanais de la Santé. Le président libanais, lui, appelle la communauté internationale à intervenir avec force pour arrêter les attaques d'Israël. Le budget de la sécurité sociale pour 2026. Les sénateurs français rétablissent à main levée la vaccination obligatoire pour les soignants libéraux. Pour la grippe, mesure écartée par l'Assemblée nationale. Et puis enfin, cette nouvelle victoire pour la reine américaine du ski. Michaela Schifrin vient de remporter le slalom de Gurgel en Autriche, sa 103e victoire en Coupe du Monde.
Info.
On la surnomme Pocket Rocket, la fusée de poche, et on se demande où elle va s'arrêter. La française Dorian Pain, 21 ans, a remporté la nuit dernière l'édition 2025 de la F1 Academy à Las Vegas, championnat automobile réservé aux femmes, créé en 2023 en marge du Grand Prix de F1. On va revenir sur son incroyable parcours dans un instant avec notre invité. D'abord Noureddine Zidane, la seconde tentative aura donc été la bonne pour Dorian Pain.
Dorian Pain has won the championship.
Le poing et l'index levé, Dorian Pain laisse exploser sa joie à bord de sa monoplace argentée.
Yes!
Vice-championne du monde la saison passée, elle est sacrée cette année grâce à sa régularité. 4 victoires en 14 courses sans jamais terminer au-delà de la 6e place.
Merci beaucoup pour avoir contribué à ce succès. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma carrière. Je vous aime les gars. Merci à chacun d'entre vous. Quel boulot vous avez fait.
Familière des pistes automobiles depuis l'âge de 9 ans, elle est repérée début 2024 par Mercedes, qui l'intègre à sa filière jeune pilote, dont est issu George Russell, le pilote F1 de l'écurie allemande, au micro de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Dorian qui a gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions.
La F1, c'est le rêve de celle que l'on surnomme la fusée de poche en raison de sa petite taille, 1m59. Seules 5 femmes y sont parvenues dans l'histoire de la discipline. La dernière, c'était l'italienne Giovanna Amati, il y a 33 ans, mais elle n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications et à disputer un grand prix.
Noureddine Zidane et bonjour Agnès Lasbarère.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Auto Plus. Vous suivez de près ce championnat de la F1 Academy. Dorian Pain, donc 21 ans, on l'entend, mais déjà une grande maturité, qui remporte ce championnat pour sa 2e participation. Elle a été très régulière, on l'a entendu. C'est vraiment une performance de très haut niveau, si jeune pour elle.
Oui, alors bien sûr, Dorian, c'est quand même un personnage assez extraordinaire. C'est une pilote extraordinaire qui a énormément de ténacité, énormément de talent. Comme on l'a dit, on l'a entendu dans le sujet, elle a commencé très tôt par le karting, comme tous les autres pilotes. Il faut rappeler que quand même le sport automobile est un sport mixte. La Formule 1 Academy est une discipline où il n'y a que des femmes qui courent entre elles. Mais elle, son objectif, bien sûr, c'est d'arriver aux échelons supérieurs, bien sûr. Mais avant ça, il y a d'autres étapes. Parce que pour schématiser, au-dessus, l'idéal serait qu'elle puisse accéder à la Formule 3 et ensuite à la Formule 2 et ensuite à la Formule 1. Et là, évidemment, en Formule 1, il n'y a que 20 places disponibles.
Mais c'est quand même un très bon signe pour la suite. Son parcours est très prometteur à Dorian Pain.
Oui, vraiment, parce qu'elle se démarque, je vous dis, par sa ténacité. C'est une énorme bosseuse. Elle ne lâche rien, jamais. Elle l'a prouvé encore à Las Vegas là, pour ses deux dernières courses de la saison. Son objectif, bien sûr, était d'obtenir le titre. Elle est arrivée à Las Vegas avec 9 points d'avance sur sa rivale directe qui était Maya Wug. Et vraiment, la première course, ça a été une course incroyable parce qu'il y a eu des accidents, des safety cars. Il a plu, enfin, il fallait vraiment énormément. Elle a un mental de dingue, c'est ça qui marche aussi chez Dorian. Il fallait vraiment garder la tête sur les épaules et elle a gagné cette course. Et lors de la deuxième course et après la victoire à cette première course, il fallait encore qu'elle se batte pour obtenir le titre. Rien n'était encore joué. Et à la deuxième course, elle a encore été hyper tenace, hyper agressive, mais très raisonnée. Et elle a su jouer comme il fallait pour obtenir le titre. Et franchement, on ne peut que se réjouir d'avoir une pilote française de ce talent-là. En fait.
Soutenue, cette pilote française par Mercedes, pas n'importe quelle écurie. Rappelons-le, celle de George Russell qu'on entendait en F1. Ça compte aussi d'être portée par une telle équipe.
Oui, c'est très important parce que le sport automobile, c'est très compliqué puisque ce sont des budgets énormes. Il faut avoir énormément de soutien, il faut trouver des sponsors, il faut gagner des courses, il faut gagner des titres. Donc, il y a énormément de choses qui entrent en compte pour pouvoir gravir les échelons. Pour Dorian, c'est très important d'être soutenue par le junior team Mercedes, par l'écurie de Formule 1 Mercedes. Elle est aussi soutenue par les Ironem, qui est une équipe de typiquement féminine, hein, qui est dirigée par Deborah Meyer, qui a créé ce team pour promouvoir les femmes dans le sport automobile. Et ce qu'on peut espérer, il faut croiser les doigts, c'est que grâce justement à ces filières-là, et notamment la filière Mercedes, eh ben, ça l'aidera à gravir l'échelon supérieur, parce que ce sont des budgets tellement énormes qu'on ne peut pas le faire tout seul.
Mais ça marque une vraie évolution dans le sport automobile féminin, justement, la création de la F1 Academy, le fait que ces grosses écuries l'investissent aussi, on voit là une vraie dynamique sur le sujet.
Oui, c'est assez récent. Alors, c'est à l'initiative au départ de la Fédération internationale de l'automobile et notamment avec Michel Mouton qui ont créé une filière pour promouvoir les jeunes femmes dans le sport automobile avec une opération qui s'appelle Girls on Track, à laquelle avait d'ailleurs participé Dorian Pain en 2020. Et elle avait terminé deuxième derrière justement Maya Wug qui a été sa rivale cette année. Mais ça n'a pas empêché Dorian de continuer parce qu'elle a été soutenue par justement cette filière de la FIA et puis aussi par les Iron Dames. C'est ça qui est très important. Et aujourd'hui, elles ont ce soutien et ça, c'est très bien. Ça n'existait pas il y a quelques années. C'est très difficile pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles d'accéder à ce milieu qui, je le rappelle, donc est mixte, mais qui est typiquement masculin. Et c'est vraiment très, très compliqué de faire sa place. Mais les choses changent, les choses évoluent. Il y a des jeunes femmes en rallye, il y a des jeunes femmes en endurance, il y a des jeunes femmes donc en monoplace comme avec Dorian. Et cette filière de la F1 Academy, elle est très très importante parce que les courses se déroulent en ouverture des Grands Prix de Formule 1. Donc ça, c'est quand même extraordinaire et justement, ça peut ouvrir des perspectives parce que les team managers les voient courir, voient les talents, voient les capacités et peuvent les aider par la suite.
Et un coup de projecteur immense forcément sur elles et sur leurs courses. Merci beaucoup Agnès Lasbarère. Dorian Pain peut-être un jour en F1. En tout cas, elle en rêve très fort et elle le dit ouvertement. Merci beaucoup, journaliste à l'hebdomadaire Auto Plus, d'avoir pris quelques minutes avec nous après ce sacre donc de Dorian Pain, la française à 21 ans à la F1 Academy. C'était la nuit dernière à Las Vegas. Les nouveaux médicaments pour lutter contre l'obésité sont-ils efficaces? C'est la question à la une de C'est ma santé conseil avec les hôpitaux de Paris APHP et c'est avec Catherine Potier.
Comment lutter contre l'obésité? De nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché, des médicaments dits GLP-1. Alors, est-ce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les autres? À qui s'adressent-ils? Quels sont les risques s'ils ne sont pas bien utilisés? C'est ma santé conseil maintenant avec Sébastien Tchernikov. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de nutrition à l'Université Paris-Cité, chef du service nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Quand on parle de ces nouveaux médicaments, quelle est leur action sur le corps et sur le cerveau?
Ces nouvelles molécules, elles cherchent à finalement mimer l'effet des hormones naturelles qui contrôlent l'appétit. Et donc ces nouveaux médicaments vont envoyer un signal au cerveau qui va être un rassasiement plus fort, plus durable, plus rapide et qui va réduire finalement la sensation de faim, qui va donner envie de manger moins, mais qui va aussi ralentir la digestion, ce qui va avoir un effet de rassasiement sur le long cours.
Et à qui s'adressent ces médicaments ? Alors, à partir de quel moment on peut dire que cette personne est dans un état d'obésité ?
L'obésité, elle est définie partout dans le monde par un indicateur qui s'appelle l'indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a permis de donner une nouvelle façon, une nouvelle définition de la gradation de l'obésité et de ses complications, qui ne va pas uniquement se baser sur l'indice de masse corporelle, mais qui va par exemple utiliser des notions de retentissement sur la qualité de vie. On comprend bien qu'au-delà du poids, si on n'est pas capable de marcher 50 mètres ou 100 mètres parce qu'on a une arthrose évoluée des genoux, ou par exemple parce qu'on a eu un événement cardiovasculaire par le passé, eh bien entendu, le niveau de complexité de l'obésité n'est pas le même. Et de la même façon, il existe en France une organisation des soins pour permettre aux patients, en fonction justement de son niveau d'IMC et de son niveau de complications associées à l'obésité, d'être orientés soit vers le médecin généraliste en première intention, soit vers des médecins spécialistes de ville, soit vers ce qu'on appelle des centres spécialisés obésité, qui vont prendre en charge, en prendre en soin les patients qui ont une obésité les plus sévères et les plus compliquées. Mais le mot-clé, ça va être le long cours pour cette maladie qu'on appelle maladie chronique.
En clair, ce ne sont pas des médicaments que l'on prend parce qu'on veut perdre 2 ou 3 kilos avant d'aller sur la plage l'été.
Absolument, vous avez complètement raison. Ces médicaments ne doivent pas être prescrits en première intention par les médecins. Ils sont prescrits lorsque il y a une prise en charge nutritionnelle, diététique, activité physique, éventuellement psychologique, pendant au moins 6 mois. Et en cas d'échec de cette prise en charge, en l'absence de perte de poids suffisante, eh bien, ces médicaments peuvent être prescrits.
Bon, mais comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires, j'imagine, des risques.
Bien entendu, c'est la raison pour laquelle ces médicaments ne sont pas faits pour de l'esthétique. Ces médicaments, ils sont faits pour des personnes avec une maladie chronique. Il y a des effets indésirables, principalement des effets indésirables digestifs, nausées, diarrhées, constipation. Il y a un risque de calcul dans la vésicule. Et puis, il y a un risque au long cours éventuel de carences nutritionnelles, des carences en vitamines, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument prendre ces médicaments de façon encadrée et avec un suivi médical.
Il y a donc une prescription médicale, et j'insiste là-dessus, ça veut dire attention aux ventes illégales sur Internet. Il y a de faux médicaments.
Oui, les médicaments doivent être achetés en pharmacie avec une prescription médicale et encadrée.
Question importante, est-ce que ces médicaments, ces nouvelles molécules, sont remboursées par la Sécurité sociale ? Parce que c'est important pour ceux qui auraient besoin de ce type de médicaments.
C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ces différents traitements médicamenteux de l'obésité, les TMO, comme on aime les appeler dorénavant, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a des discussions en cours. Mais c'est un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, l'obésité représente 18% de la population en France. Si on se focalise sur l'indice de masse corporelle au-delà de 35, au-delà de 40, c'est 6% de la population, donc c'est un sous-groupe de ces 18%. Et si on prend en compte le surpoids plus l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle au-delà de 25 et bien plus, eh bien c'est la moitié de la population française qui est concernée par cet excès de poids, surpoids ou obésité.
Merci beaucoup Sébastien Tchernikov, chef du service nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. La lutte contre l'obésité, l'efficacité des nouveaux médicaments, c'est Ma Santé Conseil tous les dimanches avec la PHP Hôpitaux de Paris sur France Info. Et j'en profite pour citer votre ouvrage Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant, coécrit avec le professeur Selam. Merci à vous.
15h57 sur France Info, l'empire des séries désormais comme chaque week-end avec Laurent Vallière et un événement à venir la semaine prochaine, l'arrivée de la 5e et ultime saison de Stranger Things, série culte de Netflix, les premiers épisodes jeudi. Laurent Vallière, vous avez rencontré les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer.
Retour à Hawkins. La ville vit sous cloche depuis que la porte qui sépare le monde réel et le monde à l'envers est ouverte.
On est bloqué ici.
L'armée surveille. Eleven est traqué. Sur Terre, les jeunes héros, Mike, Will et leurs amis, ont bien grandi. C'est un retour aux sources et finalement la résolution de la grande énigme que propose cette ultime saison de Stranger Things. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série qui règne dessus depuis 10 ans, connaissent la fin depuis presque le début. Matt Duffer.
On a imaginé la scène finale il y a un moment, je ne dirais pas depuis la saison 1, car nous n'étions même pas sûrs à l'époque d'avoir une saison 2, mais nous l'avons en tête depuis au moins 7 ans. Et c'était super, car ça nous donnait une sorte d'étoile polaire, une direction. Par ailleurs, on sait depuis toujours ce qu'est le monde à l'envers, et nous allons le révéler au cours de cette ultime saison.
On trouve Vecna, et on en finit une fois pour toutes.
Stranger Things a été un succès surprise pour les frères Duffer, qu'ils n'expliquent pas seulement par un mélange d'histoires fantastiques à la Stephen King et de films pour enfants à la Steven Spielberg, digne des années 80. Matt Duffer.
Beaucoup de gens mettent l'accent sur la nostalgie de la série et je pense que cela fait partie de son attrait, le fait de pouvoir revisiter cette période, les années 80 et les films de cette époque. Mais nous avons aussi un public plus jeune pour qui la série n'a pas été conçue. Au départ, la série a vraiment été faite pour plaire à des gens comme moi et Ross qui avons grandi avec ce type de film. Mais si la série a eu autant de succès, ça tient davantage aux personnages et aux ressentis liés au fait d'être enfant. On a tous été des enfants à un moment donné. Donc il y a une universalité dans le fait de grandir et dans les difficultés liées à l'adolescence.
On doit rester fidèle à nous-mêmes et rester fidèle à nos amis.
Si Stranger Things se déclinera ensuite en série d'animation, en spin-off, les frères Duffer ne seront plus à la réalisation. Ils quittent Netflix pour Paramount afin de réaliser leur rêve. Matt Duffer.
Nous sommes très tristes parce que nous refermons la porte sur cette histoire et ces personnages. Travailler avec ces acteurs et cette équipe va nous manquer. La plupart d'entre eux sont impliqués dans la série depuis 8 à 10 ans. Mais une partie de nous est aussi très enthousiaste à l'idée de pouvoir raconter de nouvelles histoires et de faire un film, cette fois pour le cinéma. Donc on est un peu partagé.
William, tu vas m'aider.
Stranger Things, saison 5, les 4 premiers épisodes à partir de jeudi sur Netflix. Le final, long comme un film, le 1er janvier.
Laurent Vallière et Stranger Things dans l'Empire des séries à réécouter sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients.